Radio France Internationale, 5h30 à Paris et à Khartoum, 3h30 en temps universel.
Nemo en piste.
Des bombardements, puis un franchissement du périmètre par voie terrestre au Darfour. Les paramilitaires FSR disent s'être emparés du camp de déplacés de Zamzam, le plus grand de la région, alors que la guerre au Soudan entrera demain dans sa troisième année. Mais que s'est-il vraiment passé à Goma ce week-end? Le groupe armé M23 accuse l'armée congolaise et ses alliés d'y avoir lancé une offensive. Réponse de Kinshasa qui évoque une communication taillée de toutes pièces pour manipuler l'opinion. Lui n'a laissé aucune chance à ses adversaires. Victoire écrasante de Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle gabonaise avec plus de 90% des suffrages exprimés. Vous l'entendrez, il salue la maturité de son peuple. Le principal parti d'opposition tanzanien déclaré hors jeu de la course à la présidentielle. Il n'y aura pas de seconde chance, lance la commission électorale après le refus de Chadema de signer le code de bonne conduite. Et puis, un week-end de sport chargé, du cyclisme notamment, et la première participation de Binyam Girmay à Paris-Roubaix. L'Érythréen a même réussi à prendre du plaisir dans l'enfer du Nord. Situation confuse donc autour du camp de Zamzam, le plus grand camp de déplacés de réfugiés du Darfour dans l'ouest du Soudan. On y compte au moins 500 000 personnes. Eh bien, les paramilitaires du général Emmeti en guerre face aux soldats du général Al-Burhan revendiquent sa prise. Depuis vendredi, une série d'attaques leur est attribuée et des sources humanitaires locales parlent d'au moins une centaine de civils tués. Depuis la perte de contrôle de Khartoum, c'est sur le Darfour et notamment la ville d'El Fasher que les forces de soutien rapide concentrent leurs forces. Florence Maurice.
Le camp de Zamzam est régulièrement le théâtre d'attaques dans cette guerre, mais depuis vendredi, la violence s'est intensifiée. De sources humanitaires, les paramilitaires ont d'abord bombardé plusieurs heures le site avant de franchir le périmètre du camp par voie terrestre pour lancer un assaut. Parmi les civils tués, 9 travailleurs humanitaires employés de la dernière clinique médicale qui était encore en activité sur le site. Ils ont été abattus, déplore un responsable de l'ONG qui les employait. Selon cette source, des centaines d'abris de fortune ainsi que le principal marché du camp ont également été détruits, alors que Zamzam est déjà déclaré en famine, en raison notamment du blocus instauré par les FSR qui assiègent la ville d'El Fasher. Le bilan total est difficile à évaluer, tout comme la situation exacte sur place ce dimanche soir car les moyens de communication sont très limités. Samedi, des vidéos montrant des civils tués à Zamzam ont été diffusées par des activistes. Dans un communiqué en réaction, les forces de soutien rapide ont dénoncé une mise en scène, une tentative, je cite, de les criminaliser.
J'ajoute qu'un peu plus à l'est, mais au Darfour, au moins 56 civils ont été tués par les FSR dans la ville d'Oum Kadada. Des sources locales affirment que le directeur de l'hôpital de la ville figure parmi les victimes. Et puis demain, nous sommes le 15 avril. Cela fera 2 ans que la guerre entre les deux camps a débuté. Édition spéciale ce mardi sur RFI. Regain de violence également ce week-end dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans la nuit de vendredi à samedi à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, des tirs ont été échangés entre rebelles du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, eux qui contrôlent désormais la ville, et l'armée congolaise et ses appuis au Azalendo. Bilan 52 morts selon des sources sécuritaire sur place. Mais alors qui est à l'origine de l'offensive? Chacun se renvoie la balle. L'AFC M23 accuse les FARDC d'avoir tenté de reprendre le contrôle de la ville. Accusation balayée d'un revers de la main par Kinshasa et notamment par le porte-parole de l'armée congolaise. Je vous propose d'écouter le général-major Sylvain Ekenge.
Cette communication infondée et dépourvue de toute logique accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. Les forces armées tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes au nord de la province. Leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, au sud de Goma. Les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté pour manipuler l'opinion, pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'Est et dans la sous-région.
Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Moulégua. Ce conflit dans l'Est de la RDC qui bénéficie d'un nouveau médiateur de l'Union africaine en la personne de Fornia Singbe, le président togolais qui succède ainsi à son homologue angolais João Lourenço, lui qui a renoncé au poste qu'il occupait depuis 2022 le mois dernier. Vous l'entendrez dans nos différentes édition, cette nomination suscite une certaine controverse, notamment au Togo, même où des organisations dénoncent un manque de légitimité du chef de l'État. Il occupait depuis près de 20 mois le palais du bord de mer de Libreville. Il va y rester pour au moins 7 ans supplémentaires au Gabon. Le chef de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, a remporté haut la main la présidentielle de samedi, 90,35% des voix selon le ministère de l'Intérieur, laissant quelques miettes à son dauphin Alain-Claude Bilibinzé, crédité d'environ 3%, beaucoup moins pour ses 6 autres concurrents. Le nouveau président qui a suivi l'annonce des résultats à son QG de campagne, au milieu de ses plus fidèles partisans, Brice Clotaire-Oligui Nguema, qui s'est exprimé dans la foulée.
Je tiens à saluer particulièrement la maturité du peuple gabonais. J'en appelle à la sagesse des uns, des autres et de tous les bâtisseurs et de tous ceux qui m'ont accordé leur suffrage d'attendre la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle pour célébrer la victoire du peuple gabonais. Mes chers compatriotes, notre pays est en chantier. Je vous invite à reprendre vos activités professionnelles dans cette 5e République que nous appelons de tous nos voeux.
La réaction de Brice Clotaire-Oligui Nguema, recueillie par notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma. J'ajoute que les 7 candidats malheureux ont désormais 8 jours pour saisir la Cour constitutionnelle. Quant au taux de participation estimé aux alentours de 87% à la sortie des bureaux de vote, il a été revu à la baisse. 70,4% fait savoir le ministère de l'Intérieur. Et vous, que pensez-vous de cette élection présidentielle gabonaise et de ses résultats? Juan Gomez vous pose la question ce matin dans Appel sur l'actualité, rendez-vous à 9h10, heure de Libreville. Deuxième coup dur en une semaine pour Chadema en Tanzanie. Le principal parti d'opposition a vu son leader, Tundu Lissu, arrêté puis inculpé il y a quelques jours pour trahison et a appris hier qu'il avait été exclu des prochaines élections générales et donc de la présidentielle pour avoir refusé de signer le code de bonne conduite électorale jugé inconstitutionnel par Chadema. Si plusieurs de ses candidats avaient déjà été écartés des scrutins de 2020 et 2024, cette fois, c'est bien l'ensemble du parti qui est suspendu, une première dans l'histoire politique du pays. Christina Okello.
Il n'y aura pas de seconde chance, a prévenu la commission électorale tanzanienne. Les partis refusant de signer le code de bonne conduite sont désormais exclus de toutes les élections pour les 5 prochaines années. Sans être nommé, Chadema est clairement visé. Une décision illégale, selon l'un de ses avocats, Rugemelez Ncha.
Le président de la commission électorale n'a aucun pouvoir légal pour exclure un parti. C'est une décision arbitraire, contraire à la Constitution. Cette commission soi-disant indépendante agit en collusion avec le pouvoir pour verrouiller le processus électoral. Nous avons refusé de signer un code biaisé, taillé pour favoriser le CCM. Nous appelons les partenaires internationaux à réagir et envisageons un recours en justice. Cette exclusion ne peut pas tenir.
Pour le gouvernement, Chadema ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Le docteur Abdallah Makame, député du parti au pouvoir CCM, affirme que le parti d'opposition s'est volontairement retiré du processus.
Chadema a refusé de signer le protocole électoral préparatoire aux élections d'octobre, contrairement aux 17 autres partis. L'exclusion découle donc de leur propre retrait, en violation des règles fixées par la commission électorale.
Le député souligne que plusieurs réformes ont déjà été mises en œuvre pour garantir plus de transparence avec une commission électorale indépendante. Mais pour Chadema, ces changements sont insuffisants. Le bras de fer est donc lancé à 6 mois de la présidentielle.
RFI, 5h40 ici à Paris. C'est un un rapport qui fait froid dans le dos. Celui remis cette semaine à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies par la Commission mondiale sur l'esclavage moderne et la traite des êtres humains. Un document qui montre que 50 millions de personnes, hommes, femmes comme enfants, qui vivent dans des situations d'exploitation auxquelles ces victimes ne peuvent se soustraire. Cette étude intitulée « Aucun pays n'est à l'abri » souligne que plus de 7 millions de ces esclaves modernes se trouvent sur le continent africain, dont la moitié, Lisa Fabian, sont des enfants.
En Afrique, le travail forcé est la principale forme de traite des êtres humains et les déplacements de population un important facteur de risque. Plus de la moitié des victimes africaines de la traite sont des enfants, très souvent des filles. Les conflits démultiplient leur vulnérabilité. Dans des pays comme la RDC ou le Nigeria, les groupes armés s'en prennent aux déplacés, recrutés comme combattants, travailleurs forcés ou poussés à la prostitution. Le changement climatique est un autre facteur de risque. L'insécurité alimentaire et la pauvreté poussent certains à s'engager sur la dangereuse route de l'exil. Ce rapport rappelle que 80% des femmes et filles nigérianes qui tentent de traverser la Méditerranée via la Libye sont victimes d'exploitation sur place ou lors de leur arrivée en Europe. En Afrique de l'Est, les femmes sont plutôt emmenées dans les pays du Golfe où elles sont réduites à la servitude domestique. Mais de nombreuses victimes africaines de la traite des êtres humains sont exploitées sur le continent même, déplacées des zones rurales pauvres vers des centres urbains plus riches ou des pays voisins. Ces flux migratoires informels sont peu documentés et rendent la lutte contre la traite plus complexe.
Tenter de faire revenir les Sénégalais vers les sciences, voire susciter des vocations. C'est là l'objectif de l'initiative Spacebus, du nom d'une caravane qui sillonne les routes du pays pour promouvoir et vulgariser certaines matières scientifiques. À bord du Spacebus, une soixantaine de passionnés de technologie ou d'astronomie. Les habitants de 20 villes vont pouvoir profiter de son passage. Léa Lisa Westerhoff a suivi l'étape de Thiès, c'est à une centaine de kilomètres au sud de Dakar. Reportage.
Alors regardez, si on avait envie de faire bouillir.
Devant une audience captivée, Dembo Biakité fait bouillir de l'eau sans feu ni électricité.
Mais je suis un dealer de science. C'est de l'eau qui bout.
L'objectif pour ce professeur de physique à la retraite, montrer que les sciences, c'est pas compliqué.
Et on veut que la population, les élèves, s'intéressent un peu plus à la science, qu'ils viennent s'étonner devant les faits scientifiques et qu'ils recherchent les explications.
Car le désamour est profond. 16% à peine des élèves sénégalais se tournent vers des filières scientifiques. C'est 2,5 fois de moins qu'il y a 40 ans. Pour Amadou Moustapha Dem, dont la start-up veut démocratiser l'informatique, il faut inverser cette tendance.
Il ne faut pas se voiler la face, l'Afrique. Dans le cadre numérique, l'Afrique est vraiment en retard. Donc nous, notre mission, c'est d'essayer d'enlever les mystiques qui sont autour de la science. Parce que les élèves, ils ne choisissent pas les filières scientifiques, ils se disent que c'est difficile. Alors que lorsque tu t'y intéresses, ça va venir forcément.
Observation des planètes, pilotage de drones, jeux scientifiques, le planétologue David Baratou fait partie des animateurs de ce Spacebus.
On montre aussi les métiers qui existent dans le secteur du spatial. Et comprendre que son rêve, il est peut-être réalisable et que bah, peut-être il fera des études au Sénégal, peut-être ailleurs.
Louga, Podor, Ziguinchor au Kédougou jusqu'au 13 mai. Le Spacebus fera rêver les jeunes dans 20 villes du Sénégal. Léa Lisa Westerhoff, de retour de Thiès, RFI.
Et le passage de ce Spacebus au Sénégal, ce sera le dossier du journal de 8h30, heure de Paris. Rendez-vous tout à l'heure. Vous entendrez le directeur de l'agence sénégalaise d'études spatiales, eux. Ont été supersoniques hier, dimanche, de sport en France. Ça a commencé tôt avec le marathon de Paris. Chez les hommes, victoire du Kenyan Bernard Biwott en 2h, 5 minutes et 24 secondes. C'est l'Éthiopienne Bedatou Hirpa qui s'impose chez les femmes. Elle boucle les 42 km 195 dans la capitale en 2h, 20 minutes et 48 secondes. Ça s'est ensuite poursuivi l'après-midi. Eux avaient 260 km à parcourir, mais à vélo, dont une partie sur les pavés du nord de la France qui ont fait la réputation de la course Paris-Roubaix. Victoire, et pour la troisième année consécutive du Néerlandais Mathieu Van Der Poel avec un peu plus d'une minute d'avance devant le champion du monde Tadej Pogacar qui participait pour la première fois à l'Enfer du Nord. Première participation également pour Binyam Girmay. Et quelle participation pour l'Érythréen, maillot vert du Tour de France l'an dernier, qui franchit la ligne à une belle 15e place et qui avait le sourire aux lèvres à l'arrivée.
C'était magnifique. Heureusement, je n'ai eu aucun problème, donc j'ai pris du plaisir dans cette course. À chaque secteur pavé, il y avait beaucoup de monde. Ça vous donne tellement d'énergie, tous ces encouragements. C'était vraiment une belle aventure. Et en même temps, c'est tellement dur. J'ai mal partout, au cou, vraiment partout. Si je vais revenir, je ne sais pas, je vais déjà me remettre de cette édition et puis on verra l'année prochaine, peut-être. À voir, en tout cas, j'ai le sentiment qu'on me reverra au départ un jour et que je serai encore plus fort.
More stronger. Binyam Guirmay au micro de Thomas de Saint-Léger, 5h44 ici à Paris.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur RFI.fr. Afrique Matin sur RFI. Nemo en piste.
Vous restez avec nous sur RFI dans ce second quart d'heure. Les inquiétudes de certains marchés après la mise en circulation dans quelques pays de nouvelles pièces de monnaie. En Guinée, ce sont des billets de 20 000 francs qui ont été injectés. Eux sont mécontents, les producteurs de thé kényan. Ils ne peuvent plus exporter vers le Soudan après une décision du président William Ruto. Le retour du journal des territoires français de l'océan Indien, ce sera dans une dizaine de minutes maintenant. Avant cela, c'est l'heure du reportage Afrique. Et RFI vous propose en ce début de semaine une série consacrée aux 2 ans de guerre au Soudan. La triste date anniversaire est fixée au 15 avril. Demain donc, le conflit a provoqué l'exode de 9 millions de personnes en interne selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 4 millions à l'extérieur du pays et plus de 600 000 de ces personnes ont décidé de rejoindre le Tchad voisin qui a dans le même temps enregistré le retour de plus de 180 000 rapatriés. Mais alors comment se passe la fuite du Soudan et l'accueil au Tchad? C'est un reportage signé Igor Strauss au poste frontière d'Adré.
Vous voyez les chariots là? Tout est plein, 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 plein.
Tout ça, c'est des Soudanais qui viennent, quoi.
Des Soudanais qui viennent.
Ce matin, comme tous les matins depuis des mois, des centaines de réfugiés exténués, traumatisés, font la queue pour être enregistrés au CENAR, la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés. Mahamat travaille pour cet organisme tchadien.
Ce matin, moi, personnellement, j'ai vu des femmes avec des enfants mineurs. Donc, ils disent que là-bas, il n'y a pas... Une sécurité totale, il n'y a pas la paix.
Est-ce que vous avez des témoignages qui vous ont marqué particulièrement, vous?
Tu trouves quelqu'un qui est devant toi, elle est en train de pleurer, agressée par des hommes ou bien des viols. Tu vois, c'est inhumé, quoi.
Les femmes et les enfants représentent près de 90% des réfugiés soudanais. C'est pourtant un jeune homme que me présente Mahamat.
Voilà, ce matin, on a reçu un monsieur Mustapha Adam Idriss. Il a reçu éclat au niveau du Soudan pendant un bombardement de Janjaweed.
Ça s'est passé à Omdurman. L'attaque a eu lieu le soir, c'est-à-dire après la prière de Asr. Il y a eu des cas de mort, il y a eu des blessés, il y a eu des gens qui sont fracturés, il y a eu des gens qui ont perdu leurs jambes.
Vous savez pourquoi vous avez été attaqué?
Il dit pour rien, c'est pour le piller.
Des hommes blessés, des femmes violées, des destins brisés. Difficile dans ce contexte d'organiser la cohabitation. Ali Djimé, manager d'un camp d'Adré.
Le conflit au Soudan, certes c'est un conflit politique, mais ça s'est transformé en conflit ethnique. Un conflit entre les Arabes et les Massalites. Et pour éviter qu'il y ait encore un conflit ici dans le camp, on les sépare.
Les Arabes sont donc envoyés dans des camps près d'Abéché, les autres à Farshana, 50 km à l'ouest d'Adré. On retrouve Mahamat en compagnie de 4 femmes soudanaises.
Ils disent qu'ils sont soudanais, ils sont arrivés au Tchad, encore ils retournent là-bas, parce que leur famille se trouve derrière là-bas, ils ne peuvent pas rester.
Bravant la peur et le danger, certains retournent au Soudan pour des raisons familiales. Les autres restent au Tchad dans des conditions très précaires. Le retrait de l'aide américaine a eu des conséquences dramatiques. Des projets d'irrigation ont été stoppés net, tout comme le soutien psychologique aux réfugiés, Ali Djimé.
On fait un appel à tous les bailleurs pour pouvoir prendre en charge ces réfugiés qui sont vraiment dans le détresse.
Un message tel un SOS pour les victimes d'un conflit oublié. Igor Strauss, de retour d'Adré, RFI.
Un premier des 3 reportages de cette série consacrée aux 2 ans de guerre au Soudan. La suite, c'est demain sur RFI. Vous pouvez réécouter ce sujet à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Les principaux titres de ce lundi 14 avril 2025. Le président ukrainien suggère à Donald Trump de venir constater de lui-même les conséquences de la guerre. Dans un entretien diffusé sur la chaîne américaine CBS, Volodymyr Zelensky appelle son homologue américain à se rendre en Ukraine pour voir les gens, les civils, les bâtiments détruits avant de reprendre des pourparlers de paix avec la Russie. Une interview enregistrée avant la frappe dévastatrice sur la ville de Soumy. Au moins 34 personnes sont mortes hier dans cette localité du Nord-Est. Attaque que Donald Trump lui-même qualifie d'horrible. Nouvel épisode judiciaire pour l'ex-président sud-coréen. Le procès pour insurrection de Yoon Suk-yeol s'est ouvert tout à l'heure. Il lui est reproché d'avoir brièvement déclaré la loi martiale au mois de décembre dernier, un acte qui lui a déjà valu d'être destitué de la tête du pays la semaine dernière. L'ancien dirigeant risque la réclusion à perpétuité. L'écrivain Mario Vargas Llosa est mort. Ses enfants ont annoncé il y a quelques heures le décès de leur père, âgé de 89 ans. Il s'est éteint à Lima, la capitale péruvienne. Le prix Nobel de littérature 2010 était une figure majeure des lettres sud-américaines. À l'instar de Gabriel Garcia Marquez ou Julio Cortázar, le président Dina Boluarte salue, la présidente, pardon, salue un génie intellectuel. Et puis en Équateur, le président sortant Daniel Noboa revendique sa victoire face à la candidate de gauche, Luisa González. Il obtiendrait plus de 56% des voix, mais son adversaire conteste ses résultats et demande un recomptage des votes. Ils sont quelques dizaines de millions sur le continent à découvrir en ce mois d'avril de nouvelles pièces ou de nouveaux billets en circulation. La Banque des États d'Afrique centrale fait circuler des nouvelles gammes de pièces de monnaie. Et en Guinée, par exemple, on trouve des nouveaux billets de 20 000 francs. Objectif, des devises plus durables pour répondre à la demande face à la pénurie d'espèces. Pourtant, Alexis Bédus, ces mises sur le marché peuvent perturber l'équilibre de certaines économies nationales. C'est le dossier Afrique Éco.
Il y avait trop de faux billets de 20 000 francs guinéens, c'est l'explication principale de la Banque centrale de la République de Guinée. Un nouveau billet est entré en circulation, plus fiable, plus moderne selon la BCRG. Cela peut avoir des effets néfastes, explique Safaïou Diallo, économiste guinéen, parce que deux types de billets de 20 000 francs sont désormais utilisés sur les marchés, l'ancien et le nouveau.
Compte tenu du fait qu'on a un secteur informel qui est très développé, beaucoup de personnes risquent d'interpréter comme quoi ces nouvelles coupures sont celles qui seront utilisées désormais dans les transactions et que les anciennes risquent de ne pas trop passer. Moi, c'est quelque chose qui m'inquiète en tant que tel.
L'objectif n'est pas d'injecter plus d'argent dans l'économie. Ce nouveau billet est juste censé remplacer les billets usés et trafiqués. Mais le risque d'une dévaluation et d'une inflation existe selon Safaïou Diallo.
Ce qui soutient la valeur d'une monnaie, c'est la production. Lorsque la production ne tue pas, la monnaie émise de trop risque d'avoir des conséquences inflationnistes. Et tout le monde connaît que l'inflation a des conséquences néfastes, notamment la perte du pouvoir d'achat. Et c'est cela qui m'inquiète en quelque sorte à ce niveau.
Côté BEAC, ce qui a motivé le lancement d'une nouvelle gamme de pièces, c'est la pénurie persistante. Il y aura donc la mise en circulation de 9 nouvelles pièces de 1 à 500 francs CFA pour les 6 pays membres et surtout la création d'une pièce de 200 francs CFA.
C'est une bonne chose, mais seulement le revers et que cette pièce de monnaie va créer ce qu'on appelle une inflation mécanique.
Alphonse Dongo est analyste économique à Brazzaville.
Les prix de certaines petites marchandises qui sont compris entre 150 francs CFA et 195, il y a forcément la possibilité pour certains commerçants vont faire passer ces prix tout simplement à 200 francs CFA. Donc pour moi, cette nouveauté risque de déboucher sur des plaintes inflationnistes.
Les anciennes pièces de francs CFA sont particulièrement prisées, notamment en Asie, pour la fabrication de bijoux. L'alliage de ces nouvelles pièces est différent, elles n'auront donc pas la même valeur, ce qui devrait atténuer les exportations depuis la sous-région.
Alexis Bédu pour le dossier Afrique Économie. Et on continue décidément de parler du Soudan dans cette première édition d'Afrique Matin. C'est également à la une de la chronique des matières premières puisque Khartoum a suspendu il y a un peu plus d'un mois toutes les importations de produits kényans. Une mesure de représailles après l'accueil par Nairobi des paramilitaires FSR du général Emmeti et leurs alliés. Une sanction jugée lourde par les producteurs kényans de thé. Notamment, le Soudan fait partie des 10 premières destinations d'export. Chronique signée Gaël Alex.
Ils sont plus de 200 conteneurs de thé immobilisés dans la chaîne soudanaise d'approvisionnement. Selon le ATT, l'Association Est-Africaine du Commerce du Thé, 400 sacs destinés au Soudan sont bloqués dans le port de Mombasa ou sur des paquebots au large de Port-Soudan. Les pertes pourraient atteindre les 10 millions de dollars. Giorgio Muga, président de l'ATT, demande aux autorités kényanes de trouver une solution diplomatique. Les professionnels voudraient qu'un délai d'un mois leur soit au moins accordé afin d'écouler les stocks de thé déjà engagés dans la chaîne d'approvisionnement. d'approvisionnement. Mais la situation n'a pas l'air d'inquiéter William Ruto. Dans une interview à la télévision la semaine dernière, le président a assuré que le Kenya continuait de vendre son thé au Soudan. C'est le marché lui-même qui l'oblige, explique-t-il. Une sortie qui a provoqué la colère de Port-Soudan. Dès le lendemain, son ambassade à Nairobi a publié un communiqué pour remettre les points sur les i. Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact de la suspension des importations soudanaises sur le secteur kényan du thé. Elles avaient déjà chuté de plus de 70% depuis le début de la guerre en 2023, selon le bureau du thé du Kenya. En 2022, elles avaient rapporté 37 millions de dollars. Dans son rapport sur l'industrie 2024, le bureau du thé du Kenya identifie de nouvelles pistes d'exportation sur le continent. Parmi elles, le Tchad, sans accès à la mer, c'est à travers le Soudan que ce pays sahélien s'approvisionnait en thé. Mais les principales destinations des feuilles kényanes se trouvent en dehors du continent. Le Pakistan reste le premier marché avec plus de 21 millions de kilos achetés l'année dernière.
Et cette chronique des matières premières signée aujourd'hui à Gaël Alex depuis Nairobi. À 5h55 ici à Paris. Avant le retour de l'actualité internationale avec Gaëtan Plené, le lundi c'est le journal des territoires français de l'océan Indien qui revient. Et à la une, la visite de la ministre de la Transition écologique sur l'île de la Réunion. Bonjour Lou Suran.
Bonjour, Agnès Pannier-Runacher est arrivée samedi 12 avril et repart ce lundi 14 après 3 jours de visite officielle sur l'île. Elle a notamment participé à la commission des thons de l'océan Indien. L'occasion aussi d'aborder le projet d'autonomie énergétique de la Réunion. L'ancien président de région, Paul Vergès, le programmait pour 2030. Jonathan Évrard de Réunion La Première fait le point sur ce dossier.
Aujourd'hui, la consommation d'énergie à La Réunion se divise en 2 grandes catégories. La mobilité à 65% et l'électricité à 35%. Sur la mobilité, malgré l'arrivée progressive des véhicules électriques, cela reste majoritairement des énergies carbonées et donc très polluantes. En revanche, concernant l'électricité réunionnaise, 100% des 3000 gigawattheures produits annuellement le sont à partir d'énergies renouvelables. Le problème, c'est que 65% de ces énergies renouvelables sont importées du bois en provenance du Canada et d'Australie ou encore du biofuel. Fuel depuis l'Europe. Pour celles produites localement, entre 13 et 15% le sont à partir d'hydroélectricité, 7 à 10% grâce à la bagasse et 11% à l'énergie solaire. Et c'est sur cette dernière source que la marge de progression est la plus importante dans l'île. Le développement massif du photovoltaïque est la priorité numéro 1 de la région, notamment chez les particuliers, avec des capacités de stockage individualisées. Et puis enfin, l'éolien en mer pour permettre notamment la production d'hydrogène à partir d'électrolyseurs. Un plan de développement de l'hydrogène à La Réunion est d'ailleurs actuellement en cours d'élaboration pour les mobilités lourdes, à savoir les camions et les bus. Plusieurs priorités qui doivent être détaillées par la majorité régionale d'ici 1 ou 2 ans. Elles s'inscrivent dans une stratégie globale à l'horizon 2050.
Toujours à La Réunion, des collégiens, lycéens et étudiants de Saint-Joseph ont rencontré des gramounes, terme qui désigne les personnes âgées en créole réunionnais. Un échange dans le cadre de Histoires longtemps, magazine papier numérique qui reconstitue la mémoire collective. Reportage de Cynthia Véron de Réunion La Première.
Pour Grégory Payette, 13 ans, recueillir la mémoire des Gramounes, c'est essentiel pour connaître la vie d'avant et ne pas oublier. Il a rencontré Rita Guichard, qui est originaire du quartier de Grand Coude.
Elle m'a dit que certes la vie était dure, mais qu'elle se contentait de ce qu'elle avait et que malgré ça, il y avait la famille, les amis et c'était quand même la joie. J'ai vraiment adoré cette expérience. Elle nous a raconté comment ça se passait chez elle avant, comment c'était les punitions par exemple ou bien l'école. C'est des choses qu'on n'a pas vécues nous.
4 jeunes ont ainsi pu interviewer Rita chez elle. La gramoune de 73 ans est ravie de cette expérience, même si elle a gardé quelques secrets.
J'avais beaucoup de choses à dire, mais bon, après il y a des choses que je peux dire, il y a des choses que je ne peux pas révéler. Quand j'étais petite, c'est marrant. J'étais l'aînée, j'allais chercher de l'eau à 2 kilomètres. On faisait ça tous les matins, pieds nus, dans les viagras, comme on dit. Et après, j'allais travailler dans les champs. C'était pas facile, mais bon, on a survécu quand même.
Pour les seniors, cette transmission intergénérationnelle est importante pour que les jeunes prennent conscience du mode de vie d'antan. Les témoignages recueillis ont été retranscrits dans le premier tome du magazine « Histoires longtemps ».
Direction Mayotte, où la 8e édition du Trail du sang de Chicony s'est déroulée hier dimanche. Après le cyclone Chido, les trailers, les marcheurs et les enfants sont ravis de reprendre le sport. Écoutez ces témoignages.
J'ai fait la course là des enfants de 1,5 km. C'était dur parce que quand c'était bientôt à la fin, j'ai vu les autres ils me dépassaient, mais j'ai fait une accélération tellement fort que je les ai dépassés et je suis arrivé 5e.
D'habitude, quand on organise, il y a toujours des places libres. Les gens peuvent s'inscrire le jour J. Alors que là, une semaine avant, Il y avait plus de place. Une fierté d'arriver au bout, surtout après, on sait tous ce qui s'est passé à Mayotte avec le cyclone.
Des propos recueillis par Nadia Ali de Mayotte. La première, c'est la fin de ce journal. Bonne journée sur RFI.
Merci Lou Suran, bonne journée à vous également. 5h59 précisément ici à Paris. C'est ainsi que se referme cette première édition d'Afrique Matin. Merci à Laurent Hérault à la réalisation, à Édouard Dupénoat à la rédaction en chef. Le retour de l'actualité africaine sur RFI, ce sera dans une grosse demi-heure avec Sébastien Duhamel. On revient évidemment sur la victoire de Brice Clotaire Oligui Nguema à la présidentielle gabonaise. Dans 30 secondes sur RFI, le retour de l'actualité internationale et un nouveau journal avec Gaëtan Plené.
Le prix théâtre RFI.
C'est le moment pour participer à sa 12e édition. Vous êtes auteur ou autrice, vous avez moins de 46 ans, vivez en Afrique, aux Caraïbes ou au Proche-Orient. Envoyez vos textes avant le samedi 3 mai minuit à l'adresse suivante. prix.théâtre@rfi.fr.
En partenariat avec la SACD, l'Institut français, les francophonies des écritures à la scène, Théâtre ouvert, le CDN de Normandie-Rouen et la Villa d'Art à Saint-Louis du Sénégal.